Chapitre 15. La salle de réunion dans laquelle Nicolas pénétra était à l'image de l'hôpital, blanche, froide, impersonnelle, munie d'une large fenêtre rectangulaire qui donnait sur un parking bondé. Le ciel gris et uniforme apportait un triste éclairage sans nuance, ternissant le teint des visages masqués qui se tournèrent vers lui, des gueules de portes de prison. Celle du médecin réanimateur, des parents d'Audra, et d'un type d'une quarantaine d'années qui portait des lunettes à monture carrée et un costume de pingouin aux lignes impeccables. L'homme le scruta de haut en bas. Nicolas n'avait même pas pensé à la manière dont il devait se fringuer. En mode automatique, il avait enfilé son jean, ses baskets, un pull qui traînait et son blouson en cuir. Le docteur Corneille désigna une chaise à l'extrémité de la grande table, à l'opposé de l'endroit où il se tenait lui-même. Les Spic et le type siégeaient quant à eux sur le côté droit. Niveau distanciation sociale, ils ne pouvaient pas être plus éloignés les uns des autres. « Je suis maître Frédéric Riovald, » se présenta l'inconnu, « avocat au barreau de Paris. » Nicolas fixa le médecin, puis le père d'Audra. « Un avocat ? En quoi ce qui arrive à Audra le concerne ?»« Je suis spécialisé dans le domaine de la santé, » expliqua l'intéressé. « Ne vous inquiétez pas, c'est une démarche normale dans ce genre de circonstances. Puisqu'il est question de leur fille, madame et monsieur Spic ont besoin de conseils et d'informations. Je suis là pour ça. » Nicolas se retint de répliquer qu'il n'y avait rien de normal, que jamais il ne lui serait venu à l'idée, à lui, ne serait-ce que de penser à l'ombre d'un avocat. Quel conseil ce pingouin allait-il pouvoir donner dans une situation qui relevait de l'intimité d'une famille? S'efforçant de garder son calme, Nicolas s'assit sans ôter son blouson, se contentant d'en baisser la fermeture. Martin Corneille attendit d'avoir l'attention de tous avant de commencer à parler. Pardonnez-moi d'être aussi factuel, mais je me dois en introduction de vous rappeler la situation. Madame Audra Spic, enceinte de 22 semaines, soit 24 semaines d'aménorrhée, a été admise à l'hôpital lundi 8 novembre à 3h du matin pour une hémorragie intracérébrale causée par un choc violent dans l'exercice de ses fonctions. Un œdème a ensuite conduit au tableau clinique suivant. Destruction du parenchyme cérébral avec un coma irréversible Glasgow 4 et troubles neurovégétatifs sévères. Ce bilan a été dressé par une équipe multidisciplinaire composée d'un neurologue, d'un obstétricien et d'un médecin légiste extérieur au service qui tous ont attesté de l'atteinte cérébrale irréversible chez la mère et de la bonne viabilité du fœtus qui semble indemne. Est-ce que tout est clair pour chacun d'entre vous ? La mère déchirait un mouchoir en papier, incapable de contenir sa nervosité et son chagrin. Le père demeurait impassible, comme à son habitude. Nicolas, lui, acquiesça lorsque le docteur Corneille lui adressa un regard. « Très bien. Selon les informations que vous nous avez transmises, Madame Audra Spic n'a pas émis de directives anticipées écrites, ni désigné, toujours par écrit, de personnes de confiance susceptibles de prendre des décisions pour elle. Cela implique qu'il revient à l'équipe médicale de statuer, équipe que je représente. Pour information, qu'il y ait grossesse ou pas, le coma irréversible peut relever, en accord avec la loi Leonetti, de l'arrêt des thérapeutiques actives, c'est-à-dire conduire à l'extubation et à la sédation terminale. Il parlait aussi lentement que possible pour être certain de la clarté de ses propos. Chacun de ces mots soufflait une flèche empoisonnée qui se plantait dans le cœur de Nicolas. « Il est également de mon devoir de vous demander si Madame Audra Spic aurait exprimé oralement un souhait si elle venait à se retrouver dans ce genre de situation. C'est un élément qui n'aurait pas la force de la directive écrite, mais dont nous pourrions tenir compte. » Il fixa les parents qui secouèrent la tête. Nicolas fit de même. Personne ne vit ses doigts qui s'étaient crispés sur son pantalon. D'accord. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui est de récolter votre avis concernant la poursuite des traitements. Poursuite qui serait réalisée dans le seul et unique but de mener la grossesse aussi loin que possible. Si cette option était retenue, immédiatement après la naissance, l'arrêt des soins serait enclenché. Pour être encore une fois clair avec vous, Ce que vous formulerez dans cette salle aura un poids dans la balance, mais la décision finale que je prendrai lundi, suite à ma collégiale avec le comité d'éthique, pourra être en désaccord avec votre volonté.
Autrement dit, notre opinion n'aura pas beaucoup d'importance,
intervint sèchement Christian Speak. Martin Corneille affichait un calme à toute épreuve. Dans un service où les patients oscillaient entre la vie et la mort, il devait être en permanence confronté à l'agressivité des gens.
Nous déclenchons des actions médicales qui ont toutes des avantages et des inconvénients.
La bonne action, estimons-nous, est celle qui apportera davantage de bénéfices que les autres, et pas uniquement d'un point de vue scientifique.
Dans de telles situations, la morale, l'éthique, l'écoute des volontés de chacun entrent en jeu.
Et ces dernières sont susceptibles d'orienter le choix définitif, si tant est qu'elles soient communes.
Par exemple, un des avantages qu'impliquerait le choix de faire naître l'enfant, ce serait d'être en accord avec la disposition naturelle des soignants à préserver toute forme de vie, quelle qu'elle soit. En revanche, un des avantages serait que, malgré nos efforts, il existe des risques que la suite de la grossesse se passe mal, pour tout un tas de raisons que nous ne maîtrisons pas.
Tout cela est très complexe, j'en ai conscience, mais c'est pour cela que la voix de chacun est capitale. Et il est temps que vous la fassiez entendre.
Nicolas sentait son cœur battre fort. Il s'agissait de la décision la plus grave, la plus importante de toute son existence. Il goba une grande goulée d'air, comme pour retarder encore un instant les mots qui allaient glisser sur ses lèvres, ces mots réfléchis, mûris, alors qu'il tenait encore, voilà quelques heures à peine, la main fragile et inerte d'Audra. Il se tourna vers ses beaux-parents.
Audra croquait la vie à pleines dents, vraiment. Et quoi que vous en pensiez, elle aimait son métier. Oui, elle l'aimait profondément. C'est une vraie battante, toujours entreprenante, très lucide aussi. J'ai 44 ans. Audra en a 37. Il était temps de songer à fonder un foyer. On désirait avoir un enfant. Un petit gars ou une petite fille qui viendrait mettre un peu de couleur dans notre quotidien. Au fil des semaines, c'est devenu notre priorité, presque une obsession. Puis Audra est tombée enceinte. Ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie.
Ses yeux brillèrent. Il se perdit dans ses souvenirs. Il rentrait du 36 quand Audra lui avait annoncé la nouvelle dans la cuisine de la péniche, test de grossesse à l'appui. Il se rappelait chaque détail. Le sourire plein de lumière d'Audra, ses larmes à lui, les casseroles qu'ils avaient renversées quand il l'avait serrée dans ses bras. Lorsque son esprit réintégra la salle, la triste réalité le submergea, puissante vague déferlant sur ses rêves.
Cet enfant, on devait le voir grandir à deux. On était supposé vieillir à ses côtés et lui offrir tout ce dont il aurait besoin. C'était le projet d'un couple, pas d'une personne seule, pas d'un flic qui ne serait...
Il marqua un arrêt. L'avocat griffonnait avec discrétion sur une feuille, stoppa son geste en prenant conscience du silence soudain. Nicolas comprit qu'il devait faire attention à ses paroles, que ses propres mots pourraient se retourner contre lui. Définitivement, tout ça ne rimait à rien. Il adressa un regard froid au type, lut un soupçon de compassion dans celui de la mère, puis revint vers le médecin.
Même si le projet commun n'existe plus aujourd'hui, je souhaiterais que vous fassiez tout votre possible pour faire naître mon bébé.
Martin Corneille se contenta d'un discret signe de la tête et, comme il portait un masque, Nicolas ne put savoir s'il approuvait son choix ou s'il en prenait simplement acte. La décision finale allait revenir à cet homme. Il ordonnerait ou non d'arrêter le respirateur. Que pensait-il ? Avait-il déjà une idée préconçue sur la suite des événements? Sans rien laisser transparaître, le spécialiste se concentra ensuite sur les parents.
Et vous? Quelle serait votre volonté?
Avant de répondre, Christian Speak jeta un œil vers son avocat qui acquiesça.
Notre fille est partie. Ma femme et moi refusons l'acharnement thérapeutique et voudrions enterrer Audra dans la dignité, dans la ville où elle est née, à Nice. En ce sens, nous demandons un arrêt des soins au plus vite.
Nicolas eut l'impression qu'un gouffre venait de s'ouvrir sous ses pieds, alors que la voix du pingouin qui les accompagnait parvenait à peine à ses oreilles.
Pour être très précis, monsieur et madame Speak ne désirent pas dissocier le sort du fœtus de celui de sa mère.
Comment osez-vous ? Cracha le flic en abaissant son masque d'un geste rageur.
Comment on ose ? Répliqua Christian Speak du tac au tac. Et c'est vous qui dites ça ? Vous qui nous avez appelés en pleine nuit pour nous annoncer que notre fille était à l'hôpital, mourante, parce que vous l'aviez emmenée là où une femme enceinte n'aurait jamais dû être ?
Soudain, le père se leva et écrasa son poing sur la table.
« Je vais vous dire, moi. Vous avez volé la vie de notre fille, et comme si ce n'était pas suffisant, vous voudriez maintenant que notre souffrance dure encore de longues semaines. Cet enfant que vous souhaitez à tout prix voir naître est dans le ventre d'une mère qui ne lui parlera jamais, une mère dont le cœur s'arrêtera de battre à l'instant où on débranchera les machines. Il n'y a rien d'autre que la détresse et la mort en perspective. »
Nicolas secoua la tête. « Au contraire, il y a la vie. Ce bébé sera tout ce qui restera d'Audra, un morceau d'elle. »
« Quelle vie ? Celle d'un fœtus qui a toutes les chances de souffrir avant sa naissance, qui viendra probablement au monde avec un handicap, des troubles neurologiques, qui grandira avec un traumatisme psychologique parce qu'il n'aura jamais de mère ? Dites-lui, docteur !»«
S'il vous plaît, monsieur Speak, » tempéra le médecin.
« De toute façon, notre avocat a été clair, »
conclut Christian Speak, insensible à cette tentative d'apaisement.
« On ne veut pas d'obstination déraisonnable. » Je refuse catégoriquement qu'on fasse de ma fille une sorte d'incubateur.
C'en était trop. Nicolas s'éjecta de sa chaise et se précipita vers lui. L'avocat se dressa sur son passage.
« Calmez-vous ! Vous êtes un assassin !»
s'écria le flic en brandissant un index menaçant.
« Et vous aussi, Madame Speak ! Audra est votre seul enfant. Bon sang, comment pouvez-vous laisser faire une chose pareille ?»
Celle-ci soutenait désormais son regard, dur comme son mari.
« C'est notre choix. Vous devriez le respecter. Le respecter !»
Ces gens n'avaient-ils donc pas de cœur ? Nicolas chassa d'un geste sec la main que l'avocat avait posée sur son torse pour le tenir à distance et retourna à sa place. Une fois le silence revenu, le docteur Corneille se leva à son tour. Il rassembla ses feuilles, signifiant par là que la réunion était terminée.
« Je suis désolé que vos souhaits ne soient pas orientés dans la même direction. » Ça ne m'aide pas, mais je les entends et les comprends. Monsieur Bélanger, je désirerais que vous rencontriez un psychologue de l'hôpital avant lundi.
Un psy ? Pourquoi faire ? Ce sont eux qui devraient consulter.
Vous avez besoin de parler avec quelqu'un, de rechercher quel serait l'intérêt supérieur de faire naître cet enfant.
C'est quoi ce charabia encore ?
Vous pourriez lui expliquer, par exemple, comment vous géreriez la présence d'un nourrisson malgré un métier qui, on le sait, est très contraignant. Vous l'avez dit vous-même, votre projet commun n'existe plus et nous sommes bien loin de ce que vous aviez imaginé. Vous devez avoir pleinement conscience des conséquences que cette arrivée engendrerait dans votre vie.
Nicolas n'avait pas encore réfléchi à tout ça. Comment l'aurait-il pu au milieu de cet enfer qu'il traversait ? Pour le moment, il voulait juste sauver son fils, coûte que coûte. Sans cet espoir auquel se raccrocher, à quoi bon vivre ? Il hocha la tête, comprenant que le parcours du combattant débutait à peine.
« Bien, » fit le médecin. « De mon côté, je vous ferai part de ma décision lundi soir. Si vous changez d'avis, signalez-le-moi dès que possible. On est vendredi. Il nous reste peu de temps. »
Christian Speak enfila son imperméable avec des mouvements nerveux. Son avocat lui colla au train. Avant de sortir, le père fusilla Nicolas du regard. Il ne s'agissait pas de colère, mais d'une véritable haine.
« Vous avez tué ma fille »
cracha-t-il.
« Et vous ne tuerez pas mon enfant !»